Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau FM Plus à Montpellier 91 MHz ou bien sur le 103.1 sur l'agglomération nîmoise en commençant cette première émission que nous faisons avec Michel. C'est vous dire bonne et meilleure année que l'année précédente, 2011, qu'elle soit une année d'ouverture pour chacun, une année peut-être de renoncement. Et quand on dit renoncement, c'est parfois on a envie d'accumuler tant et tant et tant de choses qu'en fait, du coup, je comprends ce que ça veut dire, qu'il est difficile pour un riche de passer en riche, c'est-à-dire quand on se remplit, on s'amasse les mains. Et c'est pour cela qu'avec vous, Michel, bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour
bonne année
à tous.
Vous aussi, hein.
Bonne année à tous.
Qu'on essaie de découvrir justement qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui donne sens à notre vie et comment la culture à la fois passée nous fait tourner vers le devenir et petit à petit on le voit justement que l'homme n'est pas seulement un animal pensant mais qu'il est autre chose et qu'est-ce qui fait son humanité sinon cette manière de voir le monde avec une réflexion, un regard et non pas seulement avec les apparences. Parce que, comme dirait Jean Anouilh, les apparences suffisent largement à faire un monde. Vous avez passé une bonne fin d'année, j'espère, Michel.
Oui, j'étais un peu grippé, mais ce n'est pas grave. Et s'agissant des vœux, eh bien, moi, je présente des vœux gnostiques, peut-être, aux auditeurs. Je vous souhaite de ne pas obtenir cette année tout ce que vous désirez. Parce qu'il faut toujours laisser à désirer quelque chose. Et la réalisation de tous les désirs, d'un point de vue gnostique, est toujours en retrait par rapport à la projection ou à l'expérience qu'on s'en faisait. Alors, ce sont des vœux paradoxaux. J'espère que les auditeurs les prendront bien. Mais je crois que laisser à désirer est toujours important.
Donc, il vaut mieux ne pas être rassasié par la vie, mais toujours en manque parce que c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Alors, justement, comme on n'est pas rassasié avec vous, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on marche ensemble et on reprend pour 2011. Comme on a fini 2010, comprendre la culture générale, c'est le titre du livre que vous avez écrit. Et on a cheminé avec ce livre depuis octobre et on arrive aujourd'hui sur l'anima et ses représentations culturelles.
Voilà, nous en sommes au chapitre 9 de mon ouvrage, qui est consacré à la typologie des constructions symboliques. Je rappelle que les cultures sont faites de constructions symboliques et qu'il est nécessaire parfois de les classer. Une typologie, c'est un classement, dont nous allons envisager maintenant l'anima et l'animus comme pôle des cultures. Et je prends ces deux mots qui viennent du latin à la thématique de Carl Gustav Jung dans sa dialectique du moi et de l'inconscient. Alors d'abord, l'anima. Qu'est-ce que c'est que l'anima ? L'homme est voué naturellement au logos, c'est-à-dire au calcul, mais il a en lui aussi un côté féminin. Et ce côté féminin de son âme, s'il n'est pas exploité, s'il est subi, c'est-à-dire s'il n'est pas intégré à la conscience, peut constituer sa faiblesse. Jung l'appelle l'anima, d'un mot latin qui veut dire l'âme, qui est la source bien sûr des plus hautes aspirations de l'homme, mais aussi la source du sentimentalisme ou de la sentimentalité de l'homme. Alors là c'est paradoxal, je ne sais pas votre avis Redouane, mais je pense que si l'on gratte un homme, même le plus endurci, on trouvera toujours un petit côté fleur bleue, vous voyez. Je vais vous donner maintenant une illustration littéraire de l'anima masculine. C'est le poème de Verlaine, « Mon rêve familier ». Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Il est évident que cet anima dont il est question ici, c'est une image de la mère du poète. Et l'expression « elle me comprend » peut être prise non pas au sens intellectuel, au sens elle comprend mes idées ou ma pensée, mais au sens physique. Elle m'embrasse, elle m'enserre, elle m'enveloppe de son corps. Je suis donc une partie de son grand corps, comme l'enfant n'est au début qu'une partie du corps de sa mère. Eh bien, nous sommes ici en présence de ce que Jung appelle un archétype, c'est-à-dire une grande image idéale qui structure l'inconscient. Il y a l'obsession chez l'homme de ce blottissement dans un corps de géante. Il y a d'ailleurs un poème de Baudelaire qui s'appelle « La géante » dans « Les fleurs du mal ». Et finalement, l'homme même le plus viril, vous voyez, Redouane, même le plus machiste, a en lui cet attachement à une anima qui, dans ce cas-là, peut être négative. Alors, elle est à la fois positive et négative. Positivement, l'anima nourrit les plus hautes représentations culturelles. Ainsi, chez nous, alors là, je parle en milieu catholique, hein, j'espère ne pas vous choquer, Redouane, en tant que protestant, l'image de la mère, c'est une on la trouve sublimée dans l'image de la Vierge. La Vierge a été divinisée progressivement en Occident, du XIIIe siècle à nos jours. C'est évidemment une sublimation de l'anima. Dans l'Évangile, à Byzance, et encore dans le christianisme orthodoxe, il ne s'agit que de la mère de Dieu, en grec « théotokos hein. ». Mais ensuite, elle est devenue chez nous Notre-Dame, au XIIIe siècle, à laquelle toutes les cathédrales ont été dédiées. Et puis, en Italie, elle est devenue la Madone, ou la Dame des Pensées. Donc, on peut dire que Marie a connu des promotions successives, et que le culte marial, sous l'effet de la pression populaire, a abouti, alors au milieu du XIXe siècle, à l'érection en dogme de l'Assomption de Marie. Elle a été prise et enlevée vers le ciel. Il y a eu aussi à peu près à la même époque le dogme de l'Immaculée Conception. Cela veut dire que Marie est exemptée du péché originel. Eh bien, tout cela, évidemment, provoque les protestants, hein, je le sais bien. Mais disons que c'est la ferveur populaire qui a créé cette promotion. Et au XIXe siècle, plusieurs figures se sont réunies dans la figure de Marie. On a eu des syncrétismes. Ce sont des figures toutes de l'anima. Par exemple, Isis, Vénus, Astarté et la Vierge sont mêlées chez Gérard de Nerval dans Aurélia. Et de même, Baudelaire, dans un de ses poèmes, parle de l'ange gardien, la muse et la madone. Vous voyez que les archétypes, ici, se fondent en un seul. Alors, à Marie, d'abord, on a réservé une adoration qu'on appelait la dulie, hein, ou plutôt un respect, une révérence. Et ensuite, une hyperdulie, c'est-à-dire une adoration, un respect superlatif. Et finalement, la Trinité chrétienne, en monde catholique, bien sûr, est devenue quasiment une quaternité, une quaternité. Alors, je ne me prononce pas sur l'opportunité de cela, hein, Redouane. Peut-être que la réaction protestante se justifie par les excès, puisque c'est la fin du monothéisme, finalement. Hein,
en quelque sorte, oui, on pourrait faire ce reproche au christianisme, effectivement.
Au catholicisme. Donc Jung parlerait ici d'inconscient collectif. Hein. Pourquoi les orphelins n'auraient-ils pas eux aussi cette grande image de la mère protectrice, non pas comme une image héritée de la vie, puisqu'ils n'ont pas eu de mère, mais comme structure mentale? Donc l'inconscient masculin est ainsi constitué, et tout homme a en lui cette grande image, qui est soit un archétype conforté ensuite par sa culture, s'il est catholique, soit sa propre mère idéalisée. Alors, ça, c'est l'anima, je dirais, positive. Maintenant, voyons l'anima négative. Le danger arrive lorsque l'homme veut projeter cette image sur un être réel. Par exemple, la femme dont il tombera amoureux. Alors, c'est humain, bien sûr, mais c'est dangereux. Hein. On dit que le dernier mot des poilus qui mouraient à Verdun était « maman hein. ». Et combien de ces hommes durs, alors je reviens à mon homme viril et machiste, ces hommes durs se font tatouer ce maman sur le corps, vous voyez, hein. Et on sait très bien que l'image de la mère est très forte chez l'homme, et que s'il épouse une femme, la femme qu'il épouse doit affronter cette image, lutter avec elle, et éventuellement parvenir à la supplanter. Par exemple, le roman de Colette Le Blé en Herbe montre cette image, l'image de la Dame Blanche, qui s'interpose entre les deux jeunes gens, Phil et Vinca, et crée la brouille entre eux. Donc, nous avions dit la dernière fois, lors de la dernière émission, que l'homme cherchait une image dans la femme, tandis que la femme, au contraire, cherchait le contact et une histoire. Hein. J'avais rappelé la phrase « Un jour mon prince viendra », qui est typiquement féminine, hein, alors que l'homme, justement, cherche à projeter cette image de l'anima. Alors, il va se produire une succession de malentendus. Si l'homme attend de la femme qu'il aime qu'elle remplace sa mère, l'homme va lui conférer une aura, c'est-à-dire un charisme, un prestige particulier, qui va être redoutable pour tous les deux. En effet, l'homme va risquer de s'infantiliser lui-même et de s'aplatir jusqu'à passer, comme le disait Jung, sous la pantoufle de sa femme, c'est une expression de Jung, hein, voilà, et cette femme va risquer d'être écrasée par l'immensité de l'attente de son partenaire. Comme elle ne peut correspondre à l'archétype, elle décevra tôt ou tard son partenaire, qui alors va se mettre à la mépriser. Et si cela se répète, l'homme, d'infantile et immature qu'il était au début, risque de devenir cynique et misogyne en englobant toutes les femmes dans un commun mépris. Et en fait, les deux réactions sont très proches l'une de l'autre et liées entre elles. Si on survalorise l'anima, on peut unir le sentimentalisme le plus naïf ou le plus exalté et la phallocratie la plus évidente. Les sociétés les plus phallocratiques sont aussi, dans leur représentation de la femme, les plus sentimentales. Prenez par exemple l'islam avec le kitsch amoureux ou les chansons d'amour, hein, je pense aussi Neloukoum égyptien, etc. Donc vous avez une anima idéalisée et irréelle, et dans la réalité des mœurs, alors, une misogynie très grande. Alors, on peut mépriser les femmes, on peut le dire ouvertement, et continuer de rêver toute sa vie à l'anima. On va dire, seule ma mère correspond justement à mon idéal, toutes les autres femmes n'en sont pas dignes. Vous voyez donc les dangers énormes dans les projections. Projeter, cela veut dire identifier un archétype que l'on sent en soi avec un être réel que l'on a en face de soi. Il ne faut pas confondre les archétypes et les êtres réels. L'anima doit rester un symbole, une construction symbolique. En fait, la femme n'est ni madone, la mère, ni prostituée, celle qu'il déçoit, l'homme, hein. Elle pourrait dire, comme dit Junie dans Britannicus de Racine, « J'ose dire, Seigneur, que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. » Alors vous voyez que les problèmes de l'anima ne concernent pas seulement l'individu, mais aussi l'imaginaire d'une société dans son ensemble. Vous voyez que la psychologie ici éclaire les représentations sociales, les comportements et les mœurs. Vous avez un exemple de l'anima négative dans l'histoire de la fable grecque. Vous savez, Redouane, que Achille était vulnérable. Où était-il vulnérable,
Achille ?
Au talon. Et alors, pourquoi était-il vulnérable au talon ? Parce que sa mère l'avait tenu par le talon pour le plonger dans le fleuve qui le rendait immortel. Donc, cela veut dire que tout homme est vulnérable par où il tient à sa mère, vous voyez ? Il faut donc qu'il s'émancipe de cela. Hein. La mère dévorante est le sujet de beaucoup de romans, comme Génitrix de Mauriac, ou alors le film de Hitchcock, que tout le monde connaît, qui s'appelle Psychose. Donc, je crois qu'il faut bien se mettre en garde contre cette projection. J'ai choisi comme première intermède musical une chanson de Georges Brassens, que tout le monde connaît, sur l'aplatissement de l'homme face à la femme pouvant incarner son anima.
n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre. Qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Vous êtes sur FM Plus dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire avec Michel Théron toujours. Donc on a abordé l'animal et ses représentations culturelles, la branche masculine, ouais, à la fois positive et négative, et maintenant donc plutôt l'approche féminine et l'animus.
Voilà, l'animus.
Je prends l'animus.
L'animus, on pourrait dire animus, peu importe. Hein. Je dirais, le point faible de la femme. Si l'anima est le point faible de l'homme, c'est-à-dire le sentimentalisme, malgré ce que l'on croit d'habitude, hein, je le répète, hein, on croit que l'homme fort, etc., n'est pas sentimental, cela n'est pas forcément vrai. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'homme, sa nature, c'est le calcul, c'est le logos, hein, et donc son sentimentalisme peut parfois l'empêcher de progresser, comme on le voit dans la chanson de Georges Brassens, où il dit tout naïvement qu'il ne se reconnaît plus à partir du moment où il a fait cette rencontre. La femme, elle, c'est Eros, c'est-à-dire l'amour qui subvertit tout. Si l'homme est logos, le calcul, la femme est Eros, et effectivement, elle a beaucoup à nous apprendre là-dessus. Mais alors, le point faible de la femme, c'est donc l'animus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animus ? c'est le conformisme. Alors, je m'excuse auprès de certains auditeurs qui peut-être sont partisans du féminisme. Ce que je vais dire n'est peut-être pas très à la mode, mais enfin, Jung considère que la femme est intellectuellement beaucoup plus conformiste que l'homme, vous voyez. On sent cet animus souvent par le ton que prend une femme en parlant. Dans certaines circonstances, lorsqu'elle professe des opinions arrêtées et ne veut pas en démordre, sa voix va se percher haut et s'emplir, alors je dirais, d'animosité. Bon, prenons par l'exemple de la loi ou de la morale. L'homme l'a créée, la loi et la morale. Mais la femme, si l'homme l'a créée par le langage, la femme, par son éros, peut magnifiquement vivifier la morale en la subvertissant, bien plus que le logos masculin qui est prisonnier des chaînes du raisonnement. La vraie loi se moque de la logique, de ses calculs, de ses catégories. Tout est permis, par exemple, à ceux qui s'aiment, et même le parjure. On peut mentir pour sauver celui que l'on aime. On le voit bien par la fausse promesse que fait l'héroïne au diable à la fin des Visiteurs du soir de Marcel Carné. Lorsque Hegel disait « les femmes sont l'éternelle ironie de la communauté », il voulait bien dire que les femmes s'asseyaient sur les lois et pensaient qu'il y avait quelque chose de plus important que les lois. Alors je me suis amusé à regarder Redouane par exemple. Lorsqu'une femme, il arrive qu'une femme conduisant au volant s'arrête à côté d'une autre femme et se mette à discuter et bloquer toute la route. Hein.
Oui, les hommes généralement c'est pour s'insulter.
les hommes c'est pour s'insulter, mais alors les femmes peuvent très bien pendant 30 secondes se côtoyer comme ça, bloquer pour parler. Vous voyez, donc les femmes, éternelle ironie de la communauté, comme le dit Hegel. Hein. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux parler que de s'insulter, ça c'est absolument certain. Donc, la femme peut nous guider là-dessus, relativiser la loi, les normes, les codes. Aragon disait « la femme est l'avenir de l'homme », mais déjà Goethe terminait le second Faust ainsi, et l'éternel féminin toujours vers le haut nous attire. Donc, voilà le côté positif du féminin. Bon, le côté négatif, c'est que une fois figé à opinion et à non-dit, on peut avoir naissance d'un conformisme et d'un prêt-à-penser dans cette morale qui alors sera non plus ouverte comme tout à l'heure, mais close, pour reprendre les mots de Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion. Bergson oppose la morale ouverte et la morale close. Alors l'animus féminin, c'est souvent l'image de cela. C'est l'image d'une société close qui est figée sur des certitudes dont on ne veut pas démordre. Jung imagine un collège de juges sous le regard desquels la femme se sent positionnée. C'est ainsi et ce n'est pas autrement. Il y a des fois où certaines femmes le disent, j'aime bien les pièces de Feydeau par exemple. On voit parfois une mauvaise foi de la femme. Bien sûr, on dira que Feydeau est misogyne, mais souvent elle dit c'est ainsi, ce n'est pas autrement, c'est ce qui s'est toujours fait, c'est ce qu'on a toujours dit, sinon de quoi est-ce qu'on aurait l'air? C'est donc la tyrannie de l'opinion. Et je dirais que si la femme a une intuition très profonde pour les situations concrètes, elle a, pour les généralisations, une certaine stéréotypie. Intellectuellement, elle est peut-être plus conservatrice que l'homme. Alors, j'imagine les auditeurs faisant leur bond sur leur siège, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille vision? On a constaté, effectivement, que les femmes votaient plus dans le sens conservateur que les hommes. Bon, je trouve que il faut tenir compte de ça. Henri Michaux dit dans Un barbare à nazi à propos de l'Inde où la femme mère a une très grande importance. Voici ce que dit Michaux. Je dis seulement, chose générale dans le monde, que les femmes conservent l'ordre existant, bon ou mauvais. S'il est mauvais, c'est bien dommage. Et s'il est bon, c'est probablement encore dommage. Vous voyez ? Donc, je dirais que anima et animus sont des parties de l'être. Il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. voyez par exemple le bateau ivre de Rimbaud, ou parfois le bateau pénètre les flots, côté masculin, ou parfois il est investi par les flots, submergé par eux. Hein. Libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, ça c'est le bateau, le côté masculin du bateau, et voici son côté féminin, plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin. Donc, je dirais que l'anima est à bien des égards la femme dans l'homme, l'animus et l'homme dans la femme. Et comme toujours, au risque de me répéter, eh bien, je pense qu'il y a une anima négative et une anima positive. Pareillement pour animus, hein, l'anima négative, c'est une caricature de l'éros qui est réduit au sentimentalisme, et l'animus négatif est une caricature du logos, qui est réduit aux mécaniques et à la stéréotypie. Si les auditeurs veulent approfondir la question, qu'ils lisent dans « Dialectique du moi et de l'inconscient » de Jung, paru en poche aux éditions Idées Gallimard, le chapitre appelé « Anima et Animus ». Vous voyez. Alors il me semble qu'une société équilibrée doit réunir masculin et féminin qui sont complémentaires en son sein. Elle doit se défier du sentimentalisme ou de la sensiblerie du côté fleur bleue, anima négative. Mais elle doit se défier aussi du confort intellectuel des certitudes et des jugements qui ne sont pas remis en question, animus négatif. Donc anima et animus ne sont pas seulement des parties de l'homme et de la femme, mais ce sont aussi des pôles symboliques et des points fragiles ou dangereux des cultures. Par exemple, une culture qui serait à la fois sentimentale dans ses représentations et intolérante dans ses mœurs n'aurait pas réglé ses comptes avec son anima et son animus. Il semble qu'il y a beaucoup de cultures qui sont aujourd'hui dans ce cas. Alors, vous savez, la vie d'un couple, hein, souvent, caricaturalement, on peut l'exprimer ainsi, l'homme rêve devant sa femme d'une mère consolante. Et la femme rêve devant son mari d'un oracle intellectuel omniscient, qui est une image qu'elle a déjà projetée sur son propre père. Ainsi, ce jeu de miroir, cette double illusion, c'est bien souvent pour beaucoup de couples ce que l'on appelle le contenu d'une vie. Alors la leçon qu'il faut tirer de cela, c'est finalement éviter ces projections. L'homme n'est pas omniscient et la femme n'est pas toujours consolante. Hein. J'ai choisi comme deuxième illustration musicale une vieille chanson de Sylvie Vartan qui montre bien cette ambiguïté de la relation lorsqu'elle compare l'amour à une cigarette.
Me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, donc qui nous étonne toujours par ses choix musicaux, parce que on retrouve là des accents qu'on avait un peu oubliés. Et puis en même temps, ça se recoupe bien avec les thématiques que vous abordez, notamment. C'est vrai que l'aspect surtout, moi je pensais que vous alliez choisir une musique plutôt orientale, où la femme est à la fois objet de désir et en même temps, en fait, elle n'est digne de respect lorsque qu'elle est sous la figure de la mère. Voilà, il y a une relation à la femme qui est assez particulière. Il y a un proverbe berbère qui dit lorsqu'une femme, la nuit de noces, princesse d'une nuit ou princesse d'un jour, est bonne toujours.
Voilà, mais ça correspond tout à fait à cela. Hein. Il y a une adoration de la mère. D'ailleurs, je crois que dans ces cultures, vous serez d'accord avec moi, Redouane, qui a le pouvoir? C'est la mère du mari. Hein. C'est la mère du mari. Hein.
Donc, Charles Aznavour le chante bien, hein. Ouais. La maman.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Ça représente vraiment.
Tout à fait. Et le but d'une femme, c'est d'avoir des garçons pour un jour avoir aussi le pouvoir. Hein. Donc, c'est-à-dire tenir le garçon sous sa coupe, vous voyez. Là, on est dans des cultures, justement, qu'il faut questionner. Hein. Il ne s'agit pas de les diaboliser, mais il faut les analyser froidement. Je crois qu'hommes et femmes sont des êtres complémentaires, qui ont chacun leur spécificité. Chacun doit connaître ses propres faiblesses, ses aspirations, mais non pas dire, comme le fait l'homme la plupart du temps, rien ne vaut ma mère, hein, et toutes les femmes sont quasiment des prostituées, seule ma mère, à qui je ne peux pas m'unir par la prohibition de l'inceste, mérite d'être adorée de loin, vous voyez. Donc il faut absolument connaître cette situation. Et j'ai choisi la chanson de Vartan parce que bon, c'est nostalgique, c'est très vieux ça. Les auditeurs doivent rire parce que. Mais ce qui m'a plu, c'est cette idée de l'amour, c'est comme une cigarette, c'est-à-dire ça interpose un voile de fumée entre nous et l'être aimé, en quelque sorte. Ça pique, hein, et puis ça s'envole en fumée. Donc pour qu'il y ait entre hommes et femmes des liens de complémentarité vécue et authentique, il faut débarrasser ces rapports de toute projection, hein, de toutes ces fumées. Hein,
Je ne sais pas si on passerait encore cette chanson de Sylvie Vartan, puisque maintenant il est interdit de fumer dans les bars, les discothèques et tout ça, donc elle aurait droit juste à la terrasse.
Oui, mais là, c'est vrai que vous me citez souvent la phrase, le début du Don Juan de Molière, hein, Redouane. L'éloge du tabac, hein, l'éloge du tabac, si vous le à la radio, est-il rien de plus dit Canarelle, de plus beau que le tabac, hein, c'est effectivement quelque chose de diabolisé aujourd'hui. Pareillement, la pipe de Baudelaire ou le cigare de Mallarmé, hein, dans son art poétique, ce sont des choses qui aujourd'hui sont impossibles. Bon, là, nous avons dévié, mais cela n'est pas grave, hein.
Alors, on va revenir aux bipolarités,
voilà,
peut-être.
Voilà. Il y a d'autres polarités, hein, que anima et animus. Il y a la polarité lutte-soumission. Hein. L'attitude masculine est plutôt faite de défis portés aux choses, et l'attitude féminine de respect de l'ordre des choses, de soumission. Peut-être parce que la femme transmet la vie, elle a plus de respect pour la vie. Peut-être aussi ne peut-elle être en révolte absolue contre la vie comme l'homme peut l'être. En effet, l'homme n'est pas biologiquement impliqué dans la génération comme la femme. Hein. Et dans toutes les représentations culturelles traditionnelles, le rôle dévolu à l'homme est différent de celui dévolu à la femme. Par exemple, dans les campagnes, lorsqu'il s'agit de sacrifier un animal, c'est l'homme qui verse le sang, pas la femme. L'homme tue les animaux, que ce soit le lapin, le cochon, etc. Et la femme se contente de recueillir le sang dans un récipient. Et en Corse, lorsque la femme veut pratiquer la vengeance ou la vendetta, elle se déguise en homme. Donc ces deux rôles sont bien distincts, comme si la femme était du côté de la vie et l'homme du côté d'une instance qui juge la vie, y compris pour l'interrompre, et qui ne lui accorde pas donc l'importance qu'elle devrait avoir, vous voyez. Alors, à ce propos, Il y a quelque chose à quoi je pense souvent. Pourquoi l'Église catholique, hein, je reviens toujours à ce milieu catholique dont je viens, pourquoi l'Église catholique refuse-t-elle encore aujourd'hui d'ordonner prêtres les femmes? Eh bien, il me semble que ce n'est pas par misogynie, mais c'est pour une raison de dogme. Parce que la messe, pour un catholique, c'est une sublimation du sacrifice. Voici l'agneau de Dieu, etc. Et seul un homme est un peut sacrifier. Seul un homme est sacrificateur. Alors, bien sûr, et là, vous en conviendrez, Redouane, ce rôle n'est pas celui d'une femme. Dans l'Église anglicane, à l'automne 92, on a posé ce problème, qui ne se pose pas, et là je parle sous votre contrôle, Redouane, chez les protestants, où il n'y a pas donc de sacrifice dans la liturgie sacramentelle, et où par conséquent il peut très bien y avoir des femmes pasteurs, c'est-à-dire qui transmettent la parole.
Hein. Mais il y a, disons, quand même un petit iota... Des exemples qui sont à part dans certaines mouvances du protestantisme, le pastorat féminin ne va pas de soi. Même au sein de l'Église réformée de France, il a fallu de longues luttes, de réflexions, etc., avant d'aboutir à... Mais cela fait partie, je pense, à la fois de la grandeur et la petitesse de l'homme. C'est à la fois de la capacité énorme de faire des choses qui impensables et en même temps s'attacher à des petites choses comme si se jouaient derrière les questions d'autorité. Et je crois qu'on n'aime pas tellement partager son autorité. Et puis il y a aussi le système patriarcal dans lequel nous baignons et là on ne peut pas se défaire comme ça d'une culture millénaire.
Oui, vous me l'apprenez, Redouane, ça. Mais en tout cas, les journalistes, s'agissant de l'Église catholique, se trompent complètement quand ils voient, justement, dans l'interdiction des femmes prêtres, une réaction misogyne. C'est une question de principe. Hein, c'est une question de reçoit ce sacrifice, dit le prêtre à la messe, eh bien, ce n'est pas là le rôle d'une femme. Alors, d'autres polarités existent pour classer les cultures. Je vais les énumérer très rapidement. Je pourrais opposer le chamanisme et le manisme. C'est ce que fait Roger Caillois au début de son livre « Le mythe et l'homme ». Le chaman, c'est un magicien sorcier qui se concilie les puissances sacrées en les captant par son intelligence et en les faisant servir à son profit. Donc le chaman intervient sur les choses. Et au contraire, la personnalité mana ou âme manique s'abandonne aux puissances environnantes. C'est une extase ou sortie hors de soi, comme le dit en grec « extasis », c'est une effusion mystique. Donc les magiciens sont chamaniques et les mystiques en général sont maniques. Il y a sûrement là un principe de classification essentiel de toutes les productions culturelles, selon que l'être veut s'affirmer dans le chamanisme ou se dissoudre dans le manisme. Donc on peut parler de culture de l'affirmation de l'homme et de culture de la dissolution du moi. Dans les cultures de l'affirmation, l'homme est magicien, dans les autres il est possédé. Tantôt il a la maîtrise sur les choses, tantôt il s'étourdit de la vie qui l'environne. Et un possédé, on l'appelle un énergumène, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui subit l'influence ou le travail, en grec énergeia, d'une puissance supérieure en lui. On appelle aussi enthousiaste quelqu'un qui est visité par un dieu, en grec théos. Ce sont toutes des caractéristiques de manisme, c'est-à-dire de fusion ou de dissolution du moi. Donc la raison est laissée de côté et c'est la transe qui l'emporte. Alors le logos, c'est-à-dire la raison, s'effraie devant de tels états, on les récuse et toute l'histoire de la théologie, par exemple occidentale, ça a été celle d'une volonté de rationalisation d'une présence irrationnelle, présence de Dieu. Bon, voilà une polarité que je prends à Roger Caillois. J'aime beaucoup Roger Caillois, c'est un disciple de Paul Valéry. C'est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, très discret, mais qui alors a un esprit très acéré. Et lisez Le mythe et l'homme, vous y verrez ce double portrait. Il y a des cultures de l'effacement du moi et des cultures de l'affirmation. On pourrait aussi utiliser l'opposition que fait Nietzsche dans La naissance de la tragédie entre l'ivresse et le rêve. Alors, on le connaît sous la forme suivante. Il y a dans l'homme un côté dionysiaque, l'ivresse, et un côté apollinien, le rêve céleste, éthéré. C'est vrai que Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse, c'est un dieu obscur, chaotique, un tumulte ou un bouillonnement qui nous habite. C'est un dieu nocturne. Et au contraire, Apollon, c'est un dieu diurne. Son char, c'est le soleil, c'est le dieu du jour, de la clarté, de l'ordre, de la religion rationnelle. Mais tout est ambivalent, tout est ambivalent, parce qu'Apollon, c'est aussi celui qui tranche, qui décide que la nuit va s'achever. Donc c'est un dieu meurtrier qui, justement, va, par sa décision, décider vient du latin caedere, qui veut dire tuer. C'est le soleil est meurtrier des étoiles. Il y a un côté dangereux dans le soleil. Vous avez lu, je pense, Redouane Mireille de Mistral. Vous savez que Mireille, après avoir traversé la Croix, eh bien, meurt d'insolation. C'est le soleil qui lui a tapé sur la tête. Et pareillement, dans L'étranger de Camus, c'est parce que le soleil zénital frappe la tête de Meursault, qu'il tire sur l'arabe à coup de revolver, et donc il va sceller son destin. Donc, tout est ambivalent. Alors, je dirais, il y a des cultures dionysiaques et des cultures apolliniennes, étant donné que, quand même, chacune a son avantage et son inconvénient. Si vous voulez comprendre l'opposition apollinienne-dionysiaque, comparez, par exemple, deux types de musique. Si vous jouez au moyen d'un instrument à cordes, que ce soit des cordes pincées ou frappées, comme la harpe, le clavecin ou le piano, cordes pincées, harpe et clavecin, cordes frappées, piano, eh bien, à ce moment-là, vous avez plutôt une attitude apollinienne, puisque vous organisez, justement, votre monde musical à votre gré. Mais au contraire, si vous jouez au moyen d'un instrument à vent, comme une trompette et une flûte, eh bien, vous avez plutôt une attitude dionysiaque, puisque le corps, le somatique, l'emporte. Dans le cas, dans le premier cas, l'esprit domine, il crée une architecture idéale et des rapports de son, le piano par exemple. Et dans le deuxième cas, c'est le corps qui domine, tout sort des entrailles du joueur. D'un côté, on a une intellectualité mathématique, voyez par exemple Bach, par exemple, et de l'autre côté, vous avez des échos organiques et un contact viscéral. Donc on peut sûrement classer les cultures ou les conceptions du monde en apollinienne d'un côté et dionysiaque de l'autre. On peut classer aussi les formes artistiques selon ce critère. Par exemple, l'art français du XVIIe siècle, celui de Versailles, est apollinien. Et l'art baroque, au contraire, celui de Louis XV, par exemple, ensuite, est dionysiaque. Il n'est plus optique ou s'adressant seulement à la vision qui tient les choses à distance, mais il va s'adresser alors plus au toucher. La musique de Lully, par exemple, est apollinienne. Eh bien, au contraire, la valse du XIXe siècle, ou le French Cancan, par exemple, à Offenbach, est dionysiaque. Alors, vous voyez, je vais prendre l'exemple, pour conclure sur ce point, des deux sœurs Phèdre et Ariane. Le mythe raconte qu'un même homme, Thésée, a abandonné, il a séduit les deux sœurs, il a abandonné Ariane, qui lui avait pourtant permis de triompher du Minotaure, dans l'île de Naxos, avant de séduire Phèdre, sœur d'Ariane, pour ensuite poursuivre sa vie d'homme volage. Thésée n'est pas un exemple de fidélité. Eh bien, l'histoire nous dit qu'Ariane, abandonnée à Naxos, a épousé Dionysos, c'est-à-dire Bacchus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a épousé Dionysos? Elle est devenue folle, et on l'imagine dansant, prise par la transe. Tandis que sa sœur Phèdre, une fois confrontée au côté volage de Thésée, est toujours à s'examiner, à se scruter, à se découvrir imparfaite. On le voit bien dans la pièce de Racine, et elle est sujette toujours à l'introspection. Dans ces deux sœurs, Ariane et Phèdre montrent les deux attitudes de l'âme face au malheur, soit plongée dans la folie et la déraison, la transe et l'ivresse, soit l'immobilité méditante, la lucidité devant le miroir, comme on le voit par exemple dans le tableau de Georges de la Tour, Madeleine à la veilleuse. Donc voilà la dualité du dionysiaque et de l'apollinien. Je vais citer deux vers de Nerval qui terminent le poème El Desdichado, où vous avez l'apollinien et le dionysiaque, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Les soupirs de la sainte, c'est plutôt l'apollinien, les cris de la fée, c'est plutôt le dionysiaque. Bon, d'autres bipolarités seraient convocables, pour classer les cultures, le jour et la nuit, par exemple, culture nocturne, culture diurne. On pourrait aussi prendre le schéma quadripartite de Bachelard lui-même dans sa psychanalyse du feu. Il est basé sur les éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Il y aurait donc quatre tropismes correspondant chacun à un animal magique ou fabuleux. « Dis-moi quel est ton fantôme, je te dirai qui tu es. Aimes-tu le gnome, l'ondine, la salamandre ou la sylphide ?» Le gnome vit au sein de la terre dont il extrait les trésors, comme les nains de Blanche-Neige. L'ondine, changeante et mouvante, nage au milieu des eaux. La salamandre vit dans le feu et s'en nourrit. Et la sylphide s'élève dans les airs, heureuse de son anorexie. Donc voilà quatre polarités psychologiques. Et pourquoi une typologie des cultures n'opérerait-elle pas ces répartitions selon cette voie de caractérologie concrète? Vous voyez? Bon, de toute façon, il nous faut trouver des modèles et des métaphores pour ce classement. Mais sachons bien que je vais terminer l'émission par un conseil de prudence. Quel que soit le modèle que l'on choisit pour classer les cultures, il faut savoir qu'il s'agit d'analogie, que nous sommes ici dans les sciences humaines, dans des sciences molles, par opposition aux sciences que l'on dit dures, qui sont comme la physique par exemple. Donc en sociologie, en anthropologie, il faut savoir que tous les modèles reposent sur des métaphores. Par exemple, si je parle du tissu social qui se déchire, de la machine économique qui s'emballe, de la fracture sociale, comme on le disait naguère, j'utilise donc des métaphores. Il faut donc être très prudent là-dessus et ne pas prendre le monde dont nous parlons, le monde culturel, comme s'il s'agissait d'étudier la matière inerte. J'aime beaucoup le jeu du portrait chinois. Je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, Redouane.
Oui, j'aime bien aussi.
Si c'était un animal, ce serait ceci. Si c'était une plante, ce serait ceci. C'est intéressant, ça.
Et si j'étais un film, je serais Red.
Ah oui. Il faudrait développer maximalement cet exercice, et pas seulement pour les enfants. C'est une excellente pédagogie de la poésie et de la pensée vivante. André Breton disait « Le plus beau mot de la langue française, c'est le mot « comme » et le plus haïssable, c'est le mot « donc ». Il y a des cas où l'image, donc, fait beaucoup plus comprendre que la démonstration, parce que la logique ressasse souvent, mais c'est la poésie qui est divinatrice. Quant à ces schémas explicatifs, ils sont projetés toujours par anticipation sur ce que l'on va étudier. Donc je terminerai cette réflexion en faisant l'éloge de l'imaginaire créateur, de l'imagination créatrice. Ce n'est pas parce que nous projetons un modèle sur ce que nous étudions que notre enquête n'est pas bonne. L'esprit fait toujours le point avec lui-même et finalement il doit déjà avoir trouvé ce qu'il va trouver. C'est la règle, c'est ce que l'on appelle, alors de termes savants, le cercle herméneutique. Depuis Dilthé jusqu'à Heidegger, toute compréhension se meut dans une structure d'anticipation. Comprendre, c'est déjà avoir compris ce qui est à comprendre. Alors pour illustrer cette imagination, j'ai choisi un beau poème chanté par Léo Ferré, « L'étang chimérique ». C'est un poème qui est chanté aussi par Jacques Audouet. On en retirera l'idée que de toute façon, l'illusion Le songe sont constitutifs de la vie, hein, et c'est une bonne illustration, il me semble, de la prudence que ici je conseille.
Merci Michel, on va déborder un tout petit peu, mais ça vaut la peine d'écouter tout de même ce dernier extrait. Merci à vous, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ensemble.
Au revoir à tous.
Nos plus beaux souvenirs fleurissent sur l'étang, dans le lointain château d'une lointaine Espagne. Ils nous disent le temps perdu, ô ma compagne, et ce blanc nénuphar, c'est ton cœur de 20 ans. Un jour nous nous embarquerons sur l'étang de nos souvenirs et referons pour le plaisir le voyage doux de la vie. Un jour nous nous embarquerons, mon doux Pierrot, ma grande amie, pour ne jamais plus revenir. Souvenirs se noieront dans les temps de ce lointain château d'une lointaine Espagne. Et nous ne garderons pour nous, ô ma compagne, que ce blanc nénuphar et ton cœur de 20 ans. Un jour nous nous embarquerons sur l'étang de nos souvenirs et referons pour le plaisir le voyage doux de la vie. Un jour nous nous embarquerons, mon doux Pierrot, ma grande amie, pour ne jamais plus.